Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Ce soir, et pour clore ces deux semaines de cours sur les rois mésopotamiens et leurs prophètes, je vous propose deux courtes interventions données dans le cadre du colloque qui a eu lieu au Collège de France les 4 et 5 avril dernier. Ce colloque, consacré à la question « Comment devient-on un prophète ?», était organisé conjointement par les chaires d'assyriologie et des milieux bibliques, c'est-à-dire par les professeurs Jean-Marie Durand et Thomas Romer. Nous entendrons Jean-Marie Durand, directeur de la publication des Archives royales de Marie et titulaire de la chaire d'assyriologie au Collège de France, qui traitera de la question suivante « Comment devient-on un prophète à Marie ?» Mais dans un premier temps, je vous propose d'écouter le professeur Dominique Charpin, directeur d'études en sciences historiques et philologiques à l'École pratique des hautes études Paris-Sorbonne, qui nous parle des prophéties et rêves censurés dans les archives royales de Marie.
Il n'existe dans les archives de Marie aucun récit de vocation prophétique comme on en trouve dans la Bible, et cela en raison de la nature radicalement différente des deux corpus. Contrairement à ce qui est parfois un peu trop rapidement indiqué, il n'existe pas de texte prophétique dans les archives de Marie. Ce qui nous est parvenu, ce sont d'abord les termes mêmes de prophétie tels qu'elles ont été portées à la connaissance du roi de Marie dans une cinquantaine de lettres qui lui ont été adressées par des personnes qui ont été les auditeurs de ces prophéties, des gouverneurs de province, des proches du souverain, etc. On a donc affaire à des documents bruts qui n'ont jamais été retravaillés par la suite, et c'est ce qui fait bien entendu tout leur prix. Ces textes nous sont parvenus tels qu'ils ont été écrits au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ et conservés pendant des siècles dans les décombres du palais de Marie, détruits par les soldats de Hammurabi de Babylone vers 1760 avant Jésus-Christ. Ce qui est très précieux dans le cas de Marie, c'est que ces lettres ne sont pas dépourvues de contexte. D'abord parce qu'elles s'éclairent les unes les autres. Il faut rappeler que la densité chronologique de cette correspondance est tout à fait extraordinaire. Actuellement, plus de 2500 lettres ont été publiées, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors ici, la petite publicité habituelle pour le site Archibab, sur lequel vous trouverez de plus en plus de textes, et donc vous pouvez demander à avoir le catalogue de toutes les lettres trouvées à Marie. Donc, plus de 2500 lettres publiées, couvrant une période d'une vingtaine d'années seulement, ce qui fait une moyenne de une lettre tous les trois jours. Et quand la totalité du corpus sera publiée, ça fera plus que doubler. Par ailleurs, l'abondance des textes administratifs permet de compléter notre connaissance du contexte, en particulier grâce à des informations chronologiques très précises qu'ils contiennent. Et dans certains cas, on peut mettre en rapport une prophétie rapportée dans une lettre avec le cadeau qui a été fait au prophète qui l'a transmise. Jean-Marie Durand a montré, par exemple, comment un certain Louparoum, qui recevait un cycle d'argent dans un document comptable pourvu d'une date, eh bien, c'était le même qui était mentionné dans une lettre où son activité prophétique était décrite. Ce tableau très positif s'accompagne néanmoins de limites. Certes, nous pouvons estimer que, dans bien des cas, nous possédons les paroles mêmes que les prophètes ont dites. Dans une occasion privilégiée, nous avons même la lettre qu'un prophète dicta en personne de la part du dieu Shamash et qui est adressée au roi de Marie. En revanche, nous n'avons aucune confession d'un prophète, aucun récit biographique ou autobiographique. Et là, il faut remarquer d'une façon tout à fait étonnante que ça n'est pas dans une lettre à contenu prophétique que nous trouvons une allusion au concept même de vocation, mais dans la lettre d'un administrateur. Peu après sa nomination à la prestigieuse fonction de Chandabakoum, une sorte de ministre de l'économie, un certain Tzidki Épour écrivit au roi de Marie « Monseigneur m'a placé à un poste considérable, mais je ne suis pas assez fort. De même que le Dieu appelle l'humanité, à présent, moi, simple ver de terre des fondations du mur, Monseigneur, dans sa divinité, m'a touché le menton et m'a renvoyé aux hommes. Or, je ne possède rien. » Dans la suite de la lettre, le personnage se plaint de son dénuement. N'ayant pas d'accès direct au roi, au moment où il écrit, il est passé par l'intermédiaire de son influence secrétaire, mais il n'a pas pu obtenir gain de cause, et donc finalement il se décide à écrire au souverain pour lui demander de bénéficier des mêmes privilèges que son prédécesseur, et ça c'est une situation pour laquelle on a des parallèles. Si l'on analyse ce passage, il est tout à fait symptomatique que l'on soit ici dans le domaine de la comparaison. Le roi, dans sa divinité, a attribué à Tzidki Épour une mission. Il est tout à fait regrettable que le recueil qui a été récemment publié d'études concernant la divinisation royale n'ait pas pris ce texte en compte, parce que c'est quelque chose de tout à fait important. L'administrateur, distingué par le choix du roi, s'en déclare indigne, mais c'est en fait pour mieux réclamer ce qu'il considère comme son dû. Et donc, on est ici clairement au niveau de la rhétorique courtisane avec une humilité affectée. Par ailleurs, on doit remarquer, comme l'avait fait Venhoff, que la rhétorique ici nous offre le plus ancien exemple d'autodénigrement avec la comparaison de soi-même avec un ver ou un vermisseau, métaphore qui a eu une bonne postérité dans la Bible. J'en donne ici un exemple, il y en a d'autres évidemment. Donc, faute de récits équivalents concernant un prophète, on ne peut pas répondre à la question « comment devient-on prophète ?» et à la question de la vocation des prophètes. Mais il est possible d'étudier d'abord la formule par laquelle certains prophètes qualifient la mission dont ils ont été chargés par la divinité. Je vous propose ensuite de voir comment certaines personnes refusaient de transmettre une prophétie dont elles avaient eu connaissance, et on terminera par étudier des cas qu'on pourrait qualifier d'autocensure, donc dans lesquels ce ne sont pas les intermédiaires, mais les détenteurs du message divin eux-mêmes qui refusaient d'accomplir leur mission, ou du moins le faisaient avec beaucoup d'hésitation. Les prophéties pouvaient être émises par des gens que l'on considère comme des professionnels des deux sexes. Jean-Marie Durand vient de nous rappeler les deux termes qui sont employés dans les archives de Marie pour les désigner, apilum avec son féminin apiltum d'une part, muchum avec son féminin muchutum d'autre part. La question de la différenciation entre les deux est délicate, mais je dirais que ici, ce qui m'intéresse, c'est davantage ce qui les unit. Dans les deux cas, on a affaire à du personnel religieux rattaché à un temple et à une divinité. Mais à côté de ce qu'on peut qualifié de professionnel de la prophétie, on a aussi des cas de prophétie ou de rêve qui sont le fait d'individus quelconques. Et dans un certain nombre de lettres, la transmission de la prophétie est précédée par ce qu'on peut appeler une formule d'envoi en mission. Tel est le cas de plusieurs prophéties adressées par le dieu Dagan de Terka au roi de Marie Zimrilim. On lit ainsi dans une lettre du gouverneur de Terka qui brille Dagan: le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez Monseigneur, un extatique muhum de Dagan m'a tenu ses propos. Dagan m'a envoyé, au sujet du sacrifice Pagraou à accomplir, envoie un message à ton Seigneur pour que le sacrifice Pagraou soit accompli le 14 du mois qui commence. Il ne faut nullement laisser passer ce sacrifice. Voilà ce que cet homme m'a dit. On remarque dans ce passage que, contrairement à bien des exemples, on n'a pas ici la reproduction d'un discours directement adressé par le dieu au roi. La formulation est indirecte. On retiendra surtout la formule « Dagan Ishpurani, le dieu Dagan, m'a envoyé ». Il en va de même dans une autre lettre du même Kibri Dagan, très semblable, autre chose: « Le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez Monseigneur, Un extatique Mouhoum de Dagan m'est arrivé, et voici ses propos. « Le Dieu m'a envoyé. Dépêche-toi d'envoyer un message au roi, afin que l'on voue le rite funéraire qui spie au man de Yardounlim. Voilà ce que cet extatique m'a dit, et je viens de l'écrire à mon seigneur. » Ici, la formule est légèrement différente, puisque on a cette fois « Le Dieu, Iloum, m'a envoyé sans que la divinité soit nommée. » Mais dans les deux cas, il s'agit d'un extatique Mouhoum de Dagan, sans qu'on puisse savoir s'il y a une raison particulière à cela. Kibri Dagan ne donne pas de nom propre, ce qui empêche de savoir s'il s'agit dans les deux cas de la même personne. On sait par ailleurs qu'il existait plusieurs extatiques Mouhoum rattachés au même dieu dans la même localité. Par exemple, on a une lettre qui mentionne plusieurs extatiques Mouhoum de Dagan. On suppose que c'est à Terka, mais le texte ne le dit pas explicitement. On a les extatiques Mouhoum du dieu Amou de Rupshaloum et une autre lettre qui mentionne cinq extatiques Mouhoum du dieu Addou, vraisemblablement à Nahour. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de gens qui sont en quelque sorte des professionnels, c'est-à-dire en tout cas qui appartiennent au personnel du temple. Un autre exemple est intéressant précisément parce que ça n'émane pas de quelqu'un qui appartient au domaine du temple. Une femme, épouse d'homme libre, est venue et m'a parlé à propos de l'affaire de Babylone en ces termes. « Dagan m'a envoyé, envoie un message à ton seigneur pour qu'il ne s'inquiète pas et que le pays non plus ne s'inquiète pas. » Toujours une lettre de Kibri Dagan, toujours la formule d'envoi, toujours une formule indirecte, hein, « Envoie un message à ton Seigneur pour qu'il ne s'inquiète pas ». Ici, c'est clairement ce que dit la femme à Kibri Dagan. Ça n'est pas le message du Dieu. Et donc, le fait qu'on ait ces trois lettres qui se ressemblent formellement assez fort a poussé certains, en particulier Ichiro Nakata, à considérer que ces prophéties, cette singularité en quelque sorte, venait du fait que ces prophéties étaient transmises au roi par Kibri Dagan, qui avait une manière standardisée de présenter les prophéties. Cependant, on trouve des formules proches, à propos de messages prophétiques transmis lors d'un rêve. C'est ainsi qu'une femme écrivit à la reine-mère Adoudouri « J'ai vu un rêve ». À ton sujet, dans mon rêve, Belet et Kalim m'envoyaient comme messagère, et malheureusement, la suite est cassée. Ça n'est pas le seul cas où c'est dans un rêve qu'un individu reçoit de la divinité une mission prophétique. Et ici, je ne peux pas évidemment éviter de rappeler le texte très célèbre que Georges Lessin avait appelé la révélation de Dagan de Terka. Un certain Malik Dagan rapporta à Itourazdou le rêve qu'il fit. Il se vit dans son rêve entrer dans le temple de Dagan de Terka, et à ce moment-là, le dieu lui adressa la parole. Et le discours divin s'achève ainsi. « Maintenant, va, dit le dieu, tu es mon messager. Tu parleras à Zimrilim en ces termes, envoie tes messagers chez moi, etc. » Une fois encore, c'est le verbe « chaparoum », envoyer, qui est ici employé. Et ça n'est pas le messager qui dit « Dagan m'a envoyé ». Dans le récit de son rêve, c'est le dieu lui-même qui lui déclare qu'il l'envoie. Aucun de ces textes ne nous dit donc véritablement comment on devient prophète, mais les personnes qui avaient le sentiment de devoir transmettre un message au roi de la part d'une divinité insistaient sur le fait qu'elles étaient envoyées par celle-ci. Par ailleurs, le modèle est clairement celui des relations diplomatiques. Au lieu d'être en mission pour le compte d'un roi étranger, les prophètes, professionnels ou occasionnels, étaient envoyés par un dieu. S'agissant du monde mésopotamien du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, il n'est donc pas vraiment possible de répondre à la question « comment devient-on prophète ?». Par contre, on peut répondre à la question inverse « comment ne pas devenir prophète ?». En effet, si l'on définit de façon large le prophète comme porte-parole de la divinité, un individu chargé d'un message divin, prophétie stricto sensu ou rêve, on constate, dans certains cas, que son message peut ne pas parvenir à son destinataire. Et ce sont ces cas de censure ou d'autocensure que je voudrais maintenant examiner. Alors le premier aspect, c'est qu'on voit dans certaines circonstances l'entourage du souverain qui censure des prophéties ou des rêves défavorables. Premier exemple, donné dans une lettre d'un certain Usharesh Rétil à Darish Libour, qui est un proche du roi Zimrilim. À propos de la fille de la reine, il avait eu une transe. La fille de Monseigneur n'a pas vécu, à présent, elle est morte. Elle était née le, passage un peu abîmé, le même jour, Iragamil avait eu une transe, disant « elle ne vivra pas ». Avant que le roi n'atteigne Marie, dis-lui que cette fillette est morte, afin qu'il soit au courant. Il ne faudrait pas que le roi, s'il entend parler du décès de cette fillette à son entrée à Marie, ne se mette à être profondément troublé. Iragamil, qui est mentionné dans la lettre, est connu comme Ekstatik Mukhum du dieu Nergal, et pas un hasard si c'est rattaché au dieu des enfers. Cet Iragamil, donc, avait prophétisé la mort d'une fille du roi peu après sa naissance, et le décès eut lieu alors que Zimrilim n'était pas dans sa capitale, sans doute en campagne. On jugea à ce moment-là nécessaire de le mettre au courant immédiatement, de façon qu'il ne montre pas son émotion lorsqu'il rentrera à Marie. Il est clair que tant de précautions n'auraient pas été nécessaires si la prophétie avait au préalable été portée à la connaissance du roi. Si l'on craint que Zimrilim ne manifeste publiquement trop le chagrin, c'est qu'il ne s'attendait pas à une mauvaise nouvelle. Son entourage lui avait donc caché la prophétie défavorable, jugeant sans doute inutile de l'alarmer, d'autant plus qu'il se trouvait à ce moment-là à l'étranger. De la même manière, on sent parfois une réticence à transmettre un rêve défavorable au roi, comme dans cette lettre de Kibri Dagan. Autre chose, un homme a vu un rêve, et Ahum me l'a répété en ces termes. La troupe ennemie est entrée dans les villes fortes, Marie, Terka et Sagaratum. Après avoir pillé, elle s'est installée dans les forteresses de Monseigneur. Ahum m'a répété son rêve, c'est-à-dire celui de cet homme mentionné au début, et il m'en a transmis la responsabilité en ces termes, écrit au roi. Voilà pourquoi j'ai écrit à Monseigneur. Alors le texte nous donne malheureusement aucun indice qui permette de situer précisément ce rêve dans l'histoire du règne de Zimrilim, mais quoi qu'il en soit, les trois villes mentionnées dans le récit de ce rêve sont les chefs-lieux des trois provinces centrales du royaume de Marie. Que l'ennemi les pille et s'y installe serait bien évidemment catastrophique. On sent bien que le gouverneur de Terka répugne à transmettre un rêve aussi défavorable, mais celui qui le lui répète fait peser sur lui la menace d'un châtiment, Arnoum. La première traduction est un peu large, il m'en a transmis la responsabilité. Le terme acadien de Arnoum, c'est le châtiment aussi bien que l'on peut avoir dans un contexte juridique que celui qui peut être envoyé par les dieux. Donc, menace d'un châtiment au cas où il n'écrirait pas au roi, d'où la formule finale par laquelle Kibri Dagan semble s'excuser de déranger le souverain. Alors la question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir si ces conduites dépendaient de l'équation personnelle des individus. Il y a un certain nombre de passages qui tentent à nous faire croire que Kibri Dagan était un peu réticent à l'endroit des prophéties. Dans une autre lettre, il raconte comment, au moment même où la moisson battait son plein, un extatique était venu le trouver pour qu'il répare d'urgence la grande porte de la ville. Faute de main-d'œuvre, le gouverneur décida de n'en rien faire, mais peu après, l'extatique revint à la charge avec des menaces très graves d'épidémie dans le secteur. Et du coup, Kibri Dagan écrivit au roi, mais ce qui est clair dans sa lettre, c'est qu'il écrivit beaucoup moins pour transmettre la prophétie que pour demander l'envoi de main-d'œuvre supplémentaire. Dans les cas qu'on vient d'examiner, ce sont les intermédiaires qui ont fait ou qui risquaient de faire écran entre le messager d'un dieu, prophète ou rêveur, et le destinataire. Mais les archives de Marie nous livrent aussi des exemples où ce sont les messagers eux-mêmes qui refusent de transmettre la communication divine. C'est à nouveau dans la correspondance de Kibri Dagan qu'on trouve un récit bien intéressant, un rêve horrible, comme le dit cette quinquagénaire interrogé par Freud. Le gouverneur de Terka traite un premier sujet dans sa lettre, et puis ensuite il ajoute « Un tel, son nom est cassé, a vu un rêve en ces termes. Voici ce que disait le dieu. Ne reconstruisez pas cette maison en ruine. Si cette maison est reconstruite, je la ferai tomber dans le fleuve. » Le jour même où il a vu ce rêve, il ne l'a dit à personne. Le lendemain, de nouveau, il a vu un rêve. Voici ce que disait le dieu. « Ne reconstruisez pas cette maison. Si vous la reconstruisez, je la ferai tomber dans le fleuve. À présent, je viens de faire porter chez mon seigneur la cordelette de son habit et la mèche de cheveux de sa tête. Depuis ce jour, ce serviteur est malade. » Alors, c'est un texte très riche, dont je vais simplement indiquer un certain nombre de caractéristiques. D'abord, il faut remarquer, dans cet exemple, que le rêve est curieusement une expérience exclusivement auditive, sans qu'on rapporte aucun élément visuel, malgré l'emploi du verbe « natalum » voir, mais Jean-Marie Durand vous a tout à l'heure expliqué pourquoi ça signifie que c'est un rêve qu'on doit prendre en compte. La mise en parallèle du récit des deux rêves successifs montre que le second est exactement parallèle au premier, avec quelques variantes minimes. Le fait que la maison soit en ruine, Haribam, dans le premier récit, manque dans le second. Et dans le second récit, on a l'emploi de la deuxième personne du pluriel, alors que dans le premier, on avait un passif. Mais ce sont vraiment des choses très minimes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien que Kibri Dagan ne l'indique pas explicitement, il semble bien attribuer la maladie du rêveur au fait qu'il n'a pas immédiatement communiqué le contenu de son rêve aux autorités. Alors ici, bien sûr, on pense à l'histoire de Jonas, puni par Dieu pour avoir refusé d'annoncer aux habitants de Ninive le châtiment divin qui les menace. Je me suis amusé à trouver une autre illustration que celle de l'affiche du colloque, mais on était sous le patronage de Jonas, n'est-ce pas ? La différence, bien entendu, c'est que ici, on ne peut pas soupçonner dans notre texte le gouverneur de Terka de romancer l'affaire. Encore une fois, il s'agit de documents bruts. Et puis, on peut aussi citer un passage du livre de Jérémie où le prophète est tenté de ne plus transmettre les oracles divins. « Quand je dis, je n'en ferai plus mention, je ne dirai plus la parole de Dieu en son nom, alors elle devient au-dedans de moi comme un feu dévorant, prisonnier de mon corps, je m'épuise à le contenir, mais je n'y arrive pas. » Donc il y a cette idée qu'on ne peut pas résister à un message divin dont on est le dépositaire, et le malheureux qui n'a pas répété son rêve immédiatement le fait parce que ça lui vient une seconde fois, mais il est malade, et ce châtiment, cette maladie, c'est le Arnoum dont était bien entendu menacé Kibri Dagan dans l'autre récit. Simplement ici, le châtiment tombe sur le rêveur lui-même parce qu'il a refusé de transmettre et non pas sur l'intermédiaire qui aurait refusé. Et je voudrais terminer moi aussi par un texte inédit qui est à la fois très intéressant et très frustrant parce qu'il est assez cassé. C'est une lettre écrite par Rami Chagish dont seule la face est conservée. Donc je vous ai mis là encore le texte complet avec sa traduction. « Dis à Shunu Haralu, ainsi parle Rami Chagish, ton fils, le rêve que j'ai vu pour mon Seigneur n'est pas bon. Ce rêve est vraiment préoccupant. Or moi, je me demandais, dois-je répéter mon rêve ? Quand Yassim Soumou est arrivé et a dit, une extatique Mukhutum d'Eshtar Bisra est venue me trouver et m'a dit, pour la protection de... Eh bien, passage cassé, je protégerai, et puis toute la suite a disparu. » Alors, c'est un cas exceptionnel, puisqu'on assiste ici au débat intérieur qui agite le rêveur. Étant donné le caractère funeste de son rêve, qui concerne le roi, doit-il ou non en faire part ? Et on voit ces hésitations interrompues par la communication qu'il reçoit de Yassim Soumou concernant la prophétie d'une extatique Mukhutum de la déesse Eshtar Bishra. Alors, l'état de la tablette ne permet pas vraiment de connaître la teneur de cette prophétie. Elle semble plutôt positive, puisqu'on a l'affirmation « Anatsar, je protégerai » à la ligne 17, qui semble bien concerner le roi. Ça n'est pas le seul cas de transmission simultanée d'un rêve et d'une prophétie. Il y a une lettre célèbre où la reine-mère Adoudouri transcrivit à la fois deux rêves qu'elle avait eus successivement et ensuite une prophétie d'une extatique Mukhutum de la déesse Anunitum. Alors, c'est un cas peut-être un tout petit peu différent dans la mesure où son propre rêve était également très défavorable, mais que la prophétie était d'une tonalité voisine. La déesse ne garantissait la sécurité de Zimrilim que si le roi renonçait à partir en campagne et restait à Marie. En l'occurrence, si on revient à notre texte, il semble que Ramishamish ait décidé de se tourner vers le secrétaire de Zimrilim, Shunuharalu, si la restitution de la première ligne est juste, mais elle est assez vraisemblable, d'après l'emplacement et ce qu'on sait par ailleurs des habitudes de l'époque. Et donc, en écrivant au secrétaire du roi, il laisse à celui-ci le soin de décider s'il devait transmettre ou non au roi un rêve défavorable, alors qu'au même moment, la déesse Eshtar-Bistra assurait le souverain de sa protection, à moins que la prophétie qui est à la fin ne soit une prophétie de secours qu'avec des restrictions. Je te protégerai à condition que tu n'ailles pas t'exposer, ce que l'état malheureusement de la tablette ne permet pas de savoir.
Jean-Marie Durand.
La question de savoir comment on devient prophète à Marie est une question difficile. Et elle peut même paraître, dans l'état actuel de notre documentation, oiseuse. Car ceux dont nous lisons encore les prophéties qu'ils ont envoyées au roi de Marie sont peu ou pas connus dans leur réalité historique et, pour ce qui est de leur origine, encore moins que pour leur situation sociale. La plupart de ceux que nous connaissons nommément n'apparaissent qu'une fois dans toute leur vie, laquelle a dû être bien plus riche et complexe que les maigres traces qu'ils ont laissées dans l'histoire. En fait, on se rend compte que le fait prophétique est une réalité secondaire dans notre documentation du XVIIIe siècle avant notre ère, surtout quand on le compare à l'activité divinatoire sans laquelle il n'y avait pas alors de conduite de l'État, ni même d'initiative du tout. Si l'activité divinatoire est récurrente et, semble-t-il, journalière, la prophétie est en revanche exceptionnelle. Cela pourrait être un indice qu'il s'agissait d'une conduite moribonde, comme paraît l'avoir été pour cette époque le recours à l'ordalie, à laquelle on ne recourait qu'exceptionnellement lorsqu'il fallait confier aux dieux ce dont les hommes n'osaient pas décider eux-mêmes, c'est-à-dire changer la définition d'un territoire disputé entre deux communautés ou faire son procès à la reine d'un État important, voire, dans un registre moins dramatique, décider d'affaires magiques où les témoignages humains étaient difficiles à établir. Ce qui fait considérer toutefois que la prophétie était alors une conduite en pleine vigueur, c'est bien le poids des attestations occidentales, très ultérieures somme toute, ainsi que le fait nouveau dans notre documentation que dans l'Ouest, on est désormais en mesure d'établir la permanence au fil des siècles d'un contact direct entre le monde divin et le monde humain, grâce aux attestations désormais bien établies de l'Apilum de l'Oronte au XVIIIe siècle avant le Christ, d'après la documentation de Marie, du Shinuyansa Hittite, qui est bien connu pour le XIVe, XIIIe siècle avant le Christ, déjà, pas très bien attesté, mais bien connu lexicalement, du Massanamis Louvite du Xe, IXe siècle, ça, ce sont dans ces dernières années que nous avons appris son existence, et qui amène jusqu'au Nevi hébraïque. Vous voyez que je ne donne pas de date pour les Nevi hébraïques. Il faut donc supposer que le phénomène prophétique est en réalité quelque chose de permanent dans les préoccupations humaines proche-orientales, même si cette activité n'est représentée que par à-coups dans notre documentation. On constate que la prophétie n'est mentionnée que dans deux corpus énormes cunéiformes, celui de Marie et celui de Ninive, et cela par un très petit nombre de textes. Ainsi, à Marie, il n'y a qu'une cinquantaine de textes qui peuvent y être ramenés sur 25 000 documents. Sur les 31 000 documents de Ninive, un peu plus d'une dizaine peuvent y être ramenés. On peut voir dans ce ratio l'explication de la rareté des attestations prophétiques et se dire que la non-attestation du phénomène à d'autres époques découle du simple hasard et d'un calcul élémentaire de probabilité. Je répondrai qu'en ce qui concerne la documentation hittite ou louvite, le prophète est également attesté, chaque fois dans des contextes historiques, ce sont les prières pour la peste ou bien une campagne militaire, qui sont exactement analogues à ce qui se passe pour les règnes de Esarhaddon ou d'Assurmanipal. Et avec un ratio encore plus faible, il y a une seule attestation pour tout le corpus hittite. Je crois donc qu'il faut proposer, à côté de la pérennité de l'activité prophétique dans le monde du temple, un fait majeur. Il y a des moments où l'autorité s'est intéressée à ce qui s'est passé dans le temple et d'autres où elle s'en est totalement désintéressée. Lorsque l'État se soucie du phénomène prophétique, ce qui est le moment où on a l'attestation des prophéties, on se rend compte qu'il n'y a pas de moment dramatique dans la vie politique qui n'ait connu de prophétie. Ainsi, pour le règne de Zimri-Lim, a-t-il été assez facile de regrouper plusieurs des prophéties en fonction des grandes épreuves par où est passé le royaume de Marie. Révolte des Benjaminites et guerre qui s'ensuit avec Eshnouna, affrontement avec les Lames, crainte de la montée de Babylone, entre autres. Il y a d'autres cas qu'on pourrait ajouter. À la différence des devins, donc, qui sont des particuliers au service ou non du roi, ceux qui font des déclarations prophétiques sont des gens du temple, ils sont tous appelés en fonction d'un dieu, ils reçoivent l'appellation d'Apiloum ou de Mouroum, qui les distingue nettement entre eux. Des choses qui sont importantes à remarquer, n'est-ce pas, c'est qu'il y a beaucoup de devins, mais pas une seule devineresse, alors que Apiloum et Mouroum, eh bien, il y a chaque fois un féminin. Et on oppose là le monde des particuliers avec le monde du temple, où la société du temple est bisexuée. Les Apiloum sont d'un rang supérieur aux Mouroum. Ils sont seuls susceptibles de se voir confier des missions. On peut alors les considérer comme des envoyés sacrés à l'occasion des missions qui leur sont données. Tels des ambassadeurs, ils agissent pour le roi, mais auprès de divinités et non pas d'humains. On ne connaît pas les raisons de leur choix par le roi, pas plus pour de telles missions, pas plus d'ailleurs qu'on ne connaît de façon explicite les raisons du choix d'un ambassadeur pour une mission politique. Parmi les prophéties, d'autres, certaines sont spontanées. C'est-à-dire que ce ne sont pas les résultats d'une mission du roi, mais les gens viennent trouver le roi. Elles sont le fait d'Apiloum ou de Mouroum. Les deux catégories sont représentées. Elles peuvent avoir vocation à apporter au roi des légitimations divines à ses entreprises, mais on comprend souvent qu'elles transmettent en fait, sous couvert d'un message divin, des doléances et ce que j'appellerais plus généralement la vox populi. L'opinion publique, si vous voulez. C'est ainsi parmi elles que l'on trouve les meilleurs exemples de sentiments nationalistes qui soutiennent les entreprises royales. Alors, si tous les devins sont également envoyés, si tous les prophètes sont également envoyés par la divinité, certains éventuellement demandent quelque chose, pas tous, mais certains demandent quelque chose. Et il faut, à ce propos, distinguer. Il faut distinguer très soigneusement la rétribution qui est donnée à quelqu'un qui arrive au nom du Dieu, de la réclamation qui est faite au nom du Dieu. C'est tout à fait des choses qui sont absolument différentes. De la même façon, l'ambassadeur d'un roi a certains droits, est traité avec plus ou moins de magnificence, mais n'obtient pas obligatoirement ce qu'il demande au nom de son maître. Le vocabulaire de la prophétie distingue entre awatum et egerum. Seule la première expression, qui peut être remplacée par un verbum dicandi, désigne expressément une prophétie qu'on ne peut négliger. Je l'ai traduit d'habitude par les ipsissima verba, avec une référence plus haute naturellement. Le second terme, qui n'est pas limité au domaine sacré, désigne plutôt une communication inspirée et n'a pas de caractère contraignant. Lorsque le roi demande à son départ en campagne à un simple habitant de Terka de lui communiquer tous les egerum qui se produiraient, il ne s'agit absolument pas, comme on l'a compris jusqu'à présent, des prophéties. Il ne cherche qu'à être informé de ce qui ne lui serait pas automatiquement transmis par les autorités locales, c'est-à-dire les messages jugés importants venant de personnes importantes. Il doit vouloir ainsi se tenir au courant de la vox populi. Lorsqu'un apilum recourt à une méthode de prophétie provoquée, il est très intéressant de se rendre compte que ce ne sont plus les awatum, les paroles du Dieu qu'il transmet, mais un simple egerum. Le murum, d'autre part, le murum ne représente pas une sorte particulière d'habitant du temple, mais un moment particulier de la vie des gens du temple. On n'est pas murum, uniquement murum, n'est-ce pas ? On dit ainsi d'un asinum, imachem, il a eu une crise estatique, et c'est sans doute asinum qui désigne réellement la population du temple. Alors, ce terme de murum, dont nous viennent naturellement toutes les prophéties, c'est le moment où les gens sont en état de prophétiser. C'est pour ça qu'il y a tellement d'associations de murum, mais les murum ne représentent pas toute la vie d'un homme. Ce n'est pas une qualification en soi. Murum et son équivalent néo-assyrien mahum signifie être simplement fou. Ça veut dire fou. C'est une formation de participe verbal. Et son équivalent lexical est sheranum, c'est-à-dire celui dont la caractéristique, c'est le sens de anum, est d'être un agitateur, sherum. Le verbe sherum signifie non pas s'agiter simplement, mais marque la non-cohésion du groupe social. Quand il y a un sherum dans un pays, c'est que le tissu social se défait. Et le verbe technique utilisé pour les prophéties en acadien, c'est « itbi », il s'est levé. Et cela rappelle tout à fait le sumérien « al-edé », ce qu'on prononce « al-edé » à l'heure actuelle, et qui est un participe également, et qui signifie « celui qui se trouve dans l'état d'aller en haut », « al-edé » est l'équivalent de « mouchoum », et « 11 » exactement signifie là « sortir de soi », être dans un état second. Le verbe, cela est très intéressant parce que le verbe teboum, qui indique l'acte même par lequel le devin va prophétiser, est couramment employé dans la langue pour indiquer que le début d'un discours véhément où l'on prend la position debout. Et on la prend tout particulièrement pour invectiver quelqu'un. Donc ce n'est pas du tout un registre religieux automatiquement. Alors on aurait donc bien là la description d'une crise de folie qui prend quelqu'un qui entre en transe. Itbi serait, il s'est levé pour parler et à ce moment-là, il prend une position inspirée. Mais le fou est lexicalement aussi désigné comme un individu avec des animaux. Et on sait que le fou est attesté comme un échébou, un homme à la chouette, un parou, comme un homme au mouton, un zabou, c'est-à-dire un homme qui tremble comme un cheval. Le verbe zababou est réservé dans la langue à un cheval qui se met à frémir d'une façon qu'on ne peut pas expliquer. Alors, cette pluralité d'événements montre bien qu'il n'y a pas une tradition sumérienne unique, d'où la tradition acadienne découlerait. La technique de l'apilum, lui, est tout à fait différente. On peut remarquer d'abord qu'il n'y a pas d'idéogramme sumérien pour apilum. Donc ça veut dire que ce ne fait pas partie de la tradition du troisième millénaire. D'autre part, je veux mettre en garde les gens sur le fait que Apiloum, oui, c'est du bon acadien, c'est un participe acadien, mais la véritable forme amhari, ce n'est pas Apiloum, c'est Aploum. Hein, et cela, il y a toute une série de parallèles qui montrent qu'en réalité, c'est un participe amhorite. C'est un participe amhorite qui, secondairement, a été transformé en Apiloum parce qu'il rentre dans un texte qui est écrit tout entier en acadien. Alors, le verbe Apaloum lui-même a un sens extrêmement précis, qui est très bien documenté par les textes et qui signifie « prendre la parole après quelqu'un ». Donc, la traduction de Apiloum par « répondant » comme on la trouve régulièrement est quelque chose d'extrêmement mauvaise. Premièrement, parce que le verbe « répondant » en français, c'est se porter garant pour quelqu'un, donc ça ne correspond absolument pas à ce que fait l'Apiloum. Et puis, d'autre part, ce n'est pas du tout la réponse de la divinité qui arrive à celui qui l'interroge. La plupart du temps, l'Apiloum parle de choses sur lesquelles on ne l'interroge justement pas. Donner une réponse, ce n'est pas bon, mais en réalité, c'est quelqu'un qui amplifie ce que le devin a trouvé, et le sens de parler après est quelque chose de, qui marche très très bien. Alors, ce qui est caractéristique, c'est que cet Apiloum, je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas provoquer son discours, parce qu'à ce moment-là, ça ne devient plus qu'un Egerum, et il y a beaucoup de textes qui montrent que c'est extrêmement simple, l'Apiloum est un inspiré et il faut laisser la divinité descendre en lui. Alors, on peut se demander naturellement comment il fait. Eh bien, on peut savoir que tous les trucs que l'on peut avoir, comme faire boire quelqu'un, lui faire avoir une fumigation, etc., ce n'est pas bon, ça ne marche pas, ça rabaisse l'Apiloum. Et il y a de bons parallèles bibliques qui montrent justement qu'il ne faut pas recourir à des choses de ce genre. On ne doit, par exemple, pas boire pour pouvoir prophétiser. Alors, dans un tel contexte, il y a une prophétie dont tout le monde est capable. C'est celle qui consiste à rêver. Et ce sont les rêves qui se produisent au cours d'une vie. Et il est effectivement, typologiquement, dans un texte cunéiforme, extrêmement difficile de distinguer entre rêve et prophétie. Et surtout dans la mesure où ce sont les dieux qui sont censés envoyer les rêves. On est frappé, en tout cas, par l'aspect simple et direct du rêve mariote, comme néo-assyrien d'ailleurs. Leur sens s'impose directement. Et à la limite, on n'a pas du tout besoin d'un interprète pour les comprendre. Il y a cependant une casuistique qu'il faut souligner. On connaissait très bien le passage célèbre entre tous de l'Odyssée 19, où Pénélope raconte qu'il y a des rêves qui sortent par la corne d'ivoire et par la porte d'ivoire et la porte de corne, n'est-ce pas, et que les uns sont véridiques, les autres ne le sont pas. On a maintenant à Marie exactement la même théorie. Et qu'il y a des rêves dont il faut tenir compte et d'autres dont il ne faut pas tenir compte. Et tout particulièrement, ce sont les rêves de la fin de la nuit qui comptent, ou du milieu de la nuit à la limite, pas du début de la nuit. Cela correspond tout à fait à la théorie grecque. Et c'est pour ça qu'il y a, et ça c'est une typologie qui est purement mariotte, deux verbes pour signifier « voir un rêve ». Il y a le verbe « amaroum », qui signifie voir en est et non pas parler, n'est-ce pas, et qui est un phénomène physique, et nataloum, qui est un rêve dont il faut tenir compte d'un point de vue ominal. Alors, ce qui va nous intéresser, ici tout particulièrement, ce sont les rêves provoqués, justement, pour essayer de voir, comme rêver est un phénomène mécanique, donc il n'y a qu'à se coucher pour avoir un rêve. Hein, voir comment on peut susciter un rêve. Et ça, c'est l'aspect le plus neuf que peut apporter la documentation de Marie. Alors, il y a un texte qui est connu depuis longtemps, qui est maintenant publié, et dans lequel un marchand babylonien vient se plaindre au roi de Marie en lui disant « Les gens qui repartent à Babylone repartent avec un homme à moi, un esclave à moi. » Et alors le roi de Marie lui dit, lorsque les messagers de Babylone sortiront, il faudra qu'Itourmer, c'est-à-dire les divinités Polyade de Marie, se couche à la grande porte par où ils sortiront. Quant à toi, fais ta réclamation. Alors le dieu se couche à la grande porte. au moment où les ambassadeurs passent, l'homme, le plaignant, fait ses réclamations, et le dieu, dans sa sagesse, considère qu'il ne faut pas qu'il y ait un incident diplomatique entre Marie et Babylone. Et il dit non, non, les deux ambassadeurs, Pouzour-Marduk et Ixtilati, n'ont pas pris d'esclaves. Bon. Voilà un de ces exemples. Le dieu lui-même se couche, n'est-ce pas, et rend son oracle. Le verbe rabatsum signifie se coucher et il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Alors, c'est naturellement extrêmement intéressant et en même temps très frustrant parce que comment est-ce que le dieu pouvait-il procéder pour se coucher et rendre un oracle ? Eh bien, il y a un texte que je garde en réserve depuis une vingtaine d'années, parce que j'ai beaucoup de difficultés à le comprendre, et je voulais apporter aujourd'hui pour qu'on le regarde ensemble, puisque avec cette coïncidence qui fait qu'il y a tant aujourd'hui de grands spécialistes de l'Ouest sémitique, je pense trouver chez vous de l'aide pour arriver à comprendre ce texte. Parce que vous savez que Marie est un pied à Babylone pour l'écriture et un pied dans l'Ouest pour son inspiration, et qu'il arrive aux mariottes d'employer des termes qui sont plutôt attestés du côté de l'Ouest que du côté de l'Est. Alors, voilà ce texte. C'est une lettre. Je vous ai mis le texte acadien, qui est assez contrôlé, et je vous ai mis la traduction en français pour que vous puissiez le comprendre. Je vous le lis rapidement. Des gens du clan de Rapalum, ce sont des bédouins des environs de Sagaratum, d'une ville de Marie, avaient fait un rapport à Terka, c'est-à-dire les deux villes sont assez proches, en présence de Monseigneur, au sujet de l'affaire de Zinyan. Zinyan est une bourgade qui est partagée entre différentes tribus Ben Simalite et Benjaminite. C'était des détracteurs d'Ishri Ilouma, leur chair, ce sont des gens qui viennent se plaindre au roi de leur chef. Une histoire extraordinairement banale. Monseigneur m'avait donné les instructions suivantes. Il faut que le dieu Ashtabi-El, Ashtabi-El, c'est un nom divin qui fait partie de ces noms Ben Simalit, qui représentent un dialecte particulier, il faut comprendre Yashtabi-El, c'est-à-dire Dieu s'est rassasié. Dieu s'est rassasié. C'est un des dieux qui sont représentés à la porte de Sagaratum. Il faut que le dieu Ashtabi-El prenne place sur sa couche et qu'on l'interroge afin que parle son diseur, faisant alors prendre procès verbal. Donc, quand le dieu se couche, il a à côté de lui quelqu'un qui doit parler. Alors, Yashtabi Lirzvitzma, tout le monde le comprend, Lishalou Shunu qu'on interroge, la correction de Lishalou n'est pas une grande correction, elle peut s'expliquer tout à fait. Et ensuite, vous avez le terme de Hayasu Ligbi, que le Rayasu parle, et toi fais écrire. Alors, on reviendra là-dessus. Waratsin étant leur coucheur, donc le dieu se couche, mais il y a en même temps quelqu'un qui se couche aussi, n'est-ce pas ? Le dieu se couche, mais il y a un coucheur. Donc, en réalité, la statue est étendue, mais il y a deux humains à côté, l'un qui est couché et l'autre qui parle. Le dieu Ashtabi-El a pris place sur sa couche, et par devant, le dieu Ashtabi-El, l'affaire s'est trouvée être tout à fait fausse. Vous voyez, comme Itourmer, les dieux ne cherchent pas la bagarre. Hein. Cependant, on ne mettra pas à mort celui qui avait calomnié par devant le dieu. Ça, c'est très intéressant, parce qu'en droit babylonien, quand vous calomniez et que ça ne marche pas, eh bien, vous subissez la peine de celui que vous auriez voulu voir condamné. Mais moi-même, dit celui qui envoie la lettre, afin qu'il n'y ait pas de sitôt une affaire fausse, parce qu'il ne faut pas qu'on continue comme ça à accuser les gens à tort et à travers, je l'ai réprimandé en présence des anciens du pays. Par devant le dieu, alors le coupable a donné une hache de bronze et un mouton mâle, ce qui représente quand même pas mal d'argent, toute l'affaire a été tenue pour fausse. Voilà que le scieur nommé Ishri Ilouma, c'est-à-dire le cher, son ekboum, alors ça c'est certainement un terme ouest sémitique, si vous pouvez aider ça sera très bien, sera de 6 cycles. De plus, il résidera à Nicher, c'est-à-dire une fesse, c'est Nacher. J'ai mené toute l'enquête dont Monseigneur avait parlé, que Monseigneur fasse ce qu'il a à faire. Ça c'est une finale qui est tout à fait normale. Alors vous voyez l'intérêt de ce texte, c'est que, bon, ça y est, on comprend maintenant ce qui se passe, le dieu se couche, mais il y a deux techniciens à côté. Et tout particulièrement, il y a son Rayasu et son Rabissu. Alors, Rabissu, c'est effectivement très facile à comprendre parce que c'est Rabitschou, hein, Il y a l'assimilation du Tsadé avec le Shin. Et Rayastounou Likbi, alors c'est là que c'est épouvantable, parce que le Sounou, ça montre qu'il y a un chou qui a été au contact avec une dentale. Seulement, le problème, c'est laquelle est-ce ? Laquelle est-ce ? Et il est bien évident que si on était en babylonien, on ferait venir automatiquement le verbe de riatum qui signifie voir, et c'est pas bon, parce que c'est pas quelqu'un qui voit, qui parle. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui parle, puisque c'est le Rabbi Tsum qui a dû voir le rêve, puisque c'est lui qui s'est couché. On imagine que c'est celui qui est couché qui voit. Et il y a quelqu'un qui commente. Et donc, c'est très intéressant parce que l'on retrouve le couple qui est pérenne à Marie, de quelqu'un qui est un technicien, et le Rabbi Tsum, c'est celui qui a le rêve, et puis il y a quelqu'un qui parle à côté, et de la même façon qu'il y a l'apiloum à côté du baroum, eh bien, vous avez ici un rayasounou, leur rayasou, etc. Alors, il y a un verbe, le seul verbe qui pourrait marcher, c'est celui de riadou. Et riadou n'est connu que par des lexiques, avec une expression sumérienne à coucher dehors, ibilou douga. Douga, c'est parler, mais ibilou, c'est absolument inconnu au régiment, n'est-ce pas ? Alors, à partir de là, il faudrait supposer un rayadoum qui signifierait celui qui par nature exprime. Et les seules façons, c'est de se tourner vers la vérité biblique, n'est-ce pas ? La veritas hebraica, et de supposer que ça aurait affaire avec les termes de Rida, la question énigmatique. J'ai recouru à Kohler Baumgartner. Je ne suis pas allé voir encore les hébraïsants parce que je pensais qu'aujourd'hui, à vous tous, vous pouviez vous répondre. Qu'il y a le terme de Houd proposé, une énigme qui est présente déjà par un commentaire de Lambert. Et je me suis demandé, alors ça sera une question à poser au sumérologue, je dis au singulier qui est ici, si Ibilou ne pourrait pas être une forme de l'acadien Apaloum. Bon. Et je me demande, pour terminer, si le Rayadoum ne pourrait pas être un équivalent ouest-sémitique de l'Apiloum. Je vous ai apporté ce texte aujourd'hui, parce qu'il fallait bien, il faut maintenant, comme je n'en suis pas capable, moi, par mes propres moyens, le livrer à la sagacité publique, mais vous voyez que quand on a un document nouveau qui arrive pour expliquer ce qui se passe, eh bien, il vaut mieux éventuellement rester à la version courte et ne pas savoir ce qui se passe que d'avoir des problèmes nouveaux.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Dominique Charpin, professeur à l'École pratique des hautes études Paris-Sorbonne, et Jean-Marie Durand, titulaire de la chaire d'assyriologie. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France. Réalisation, Laetitia Koya. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec Pierre-Étienne Ville, titulaire de la chaire d'histoire de la Chine moderne et contemporaine. Et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous. Thank you.
Thank you.